se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Parce qu'il y a une constante sous la Ve République. Les présidents, les premiers ministres, les gouvernements passent, mais Alain Duhamel reste. Bonjour, bonjour Alain.
Bonjour.
Donc c'est pour cet après-midi ?
Oui. Maintenant, on sait que c'est cet après-midi. On ne sait pas encore à quelle heure. On espère que ça sera suffisamment tôt, mais c'est cet après-midi.
Mais est-ce que c'est la première fois qu'il y a autant de délais ?
Oui, c'est très rare. C'est très
entre
rare.
La nomination du Premier ministre et la formation du gouvernement.
C'est très rare. Il y a des constitutions de gouvernement qui se passent impeccablement et tout de suite. L'exemple type, c'est celui d'Édouard Balladur. Quand il est arrivé, quand il a été nommé, il avait la liste dans sa poche, il n'en avait parlé à personne et il a nommé tout le monde dans les 24 heures. Et c'était fait. Il y en a qui se passent très mal. Par exemple, quand Rocard est devenu Premier ministre de Mitterrand, il n'était pas d'accord parce que lui aurait voulu que le parti centriste en tant que tel participe à son gouvernement. Mitterrand ne voulait pas. Ça s'est très mal passé entre eux. D'ailleurs, ça se passait toujours très mal entre eux. Et du coup, ça a été, disons, tumultueux.
Mais alors là, qu'est-ce qui a pu coincer ? Parce qu'a priori, c'est pas Madame Borne qui a tenu tête à Emmanuel Macron. Non. C'est Emmanuel Macron qui fait la liste. Peut-être qu'ils se mettent d'accord sur certains noms. Qu'est-ce qui a pu coincer ?
Encore qu'Elisabeth Borne, c'est quelqu'un qui a du caractère. Hein.
C'est pas donc, ce que je dis. Mais
elle est capable de dire non à quelque chose.
Hein. On connaît la pratique dans la composition.
Oui.
C'est le président qui a le dernier mot.
Oui, non, bah, bien sûr, c'est le président qui a la main. Ça, c'est bien clair. Non, je pense qu'il y a une part de tactique politique. Et la tactique politique, d'ailleurs, ça n'est pas vraiment une surprise, puisque c'est exactement celle qui avait été appliquée pendant la campagne présidentielle, c'est-à-dire entrer en lice de façon conflictuelle le plus tard possible. Bah, la campagne présidentielle avait duré, dans la réalité, avec intervention d'Emmanuel Macron, moins d'un mois. Et cette fois-ci, c'est la même chose pour les élections, pour la campagne législative, qui durera trois semaines. Mmh. Trois semaines, dont de longs week-ends.
Oui.
Donc, pas grand chose.
A-t-on aujourd'hui une classe politique suffisamment à la hauteur pour qu'on ait une espèce d'embarras du bon choix, mon cher Alain Duhamel ?
Alors, si vous me demandez de vous répondre vraiment sincèrement, j'aurais sans doute l'air du vieux monsieur qui regrette les temps passés. Mais la vérité, c'est que le niveau politique moyen a baissé. C'est une réalité.
Comment on l'explique ?
Par rapport au... ça, je peux vous le dire. Malheureusement, ça a baissé parce que avant, les hommes politiques, a fortiori les dirigeants politiques, étaient respectés, bien payés et influents. Aujourd'hui, ils sont moins payés, nettement moins payés. Hein. Il y a 40 ans, ils gagnaient le triple. Donc, nettement moins payés, plus respectés du tout, avec moins d'influence parce que le marché, l'Europe, le monde, etc., l'univers... Donc, ils ont une marge plus limitée. Et donc, dans ces conditions, comme c'est normal, regrettable mais normal, le niveau global baisse.
C'est-à-dire que beaucoup réfléchissent et se disent, mais qu'est-ce que je vais faire dans cette galère ? En plus, il y a aussi le souci de la transparence absolue sur ses dépenses, son patrimoine.
Et celle de sa famille.
Et même celle de sa famille.
Parce que comme on est tous maintenant extraordinairement moraux, on considère qu'on a besoin de savoir si la belle-mère a une fortune personnelle ou pas.
Et donc ça dégoûte.
Eh ben, ça, entre faire une carrière qui peut être une carrière de recherche scientifique, mais qui peut être une carrière dans une grande entreprise avec des perspectives intéressantes à tout point de vue, y compris intellectuellement, avec bien un sûr. Vrai pouvoir, et se dire j'entre dans un gouvernement pour combien de temps ? Peut-être il peut y avoir un remaniement dans un an, et avec quel pouvoir et payé comment ? Et ce qui, à mes yeux, est le pire, avec quel regard de mes concitoyens sur moi. Parce que moi, je connais, alors depuis longtemps, des dizaines et des dizaines de ministres qui travaillent comme des fous, trop, la nuit, tout le temps, le week-end, qui prennent des décisions qui ne sont pas toujours bonnes, mais à qui il peut arriver de prendre de très bonnes décisions, et qui néanmoins sont mis dans le tas, jetés dans le tas, et dont on dit a priori... ils sont pas honnêtes, ils sont inefficaces, ils sont corrompus, ils ne servent à rien, renvoyez-les.
Et Thomas.
Monsieur Duhamel, je rajouterais une chose, vous pensez pas aussi que dans le langage,
quand on voit avec Twitter des ministres qui tweetent, qui parlent, on a l'impression que ce sont des influenceurs, ou d'autres comme le ministre des Transports qui fait des vidéos sur TikTok où il se met en scène pour faire rire les jeunes. C'est pas ça aussi qui a participé au fait de niveler vers le bas le monde politique?
Non, ça n'est pas ça qui a nivelé vers le bas, c'est ça qui en revanche symbolise l'affaissement.
Ouais,
oui. Okay. C'est plutôt ça.
Ouais.
Et ceux qui s'amusent à faire ça sont en général pas les meilleurs.
Donc un ministre ne devrait pas suivre les modes en fait.
Un ministre ne devrait pas faire certaines choses. Je veux dire, un ministre ne doit pas être vulgaire, un ministre ne doit pas faire de la polémique gratuite, un ministre ne doit pas lancer des accusations au hasard, etc. Un ministre doit se comporter comme un ministre.
À voilà. Qui vous pensez comme exemple récent, Alain?
Oh, je pense, comme je suis très allergique, vous le savez très bien d'ailleurs, comme je suis très allergique aux réseaux sociaux, dès que quelqu'un est un accro des réseaux sociaux et s'y exprime beaucoup, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Il cache quelque chose.
Tout à fait.
Non, mais c'est vrai.
Kauter.
S'ils sont moins respectés, M. Duhamel, c'est parce qu'eux-mêmes ont un comportement qui est moins respectable. Enfin, franchement.
Qu'avant?
Moi, quand je vois Marlène Schiappa avec ses influenceurs, tout ça, etc., en fait, je suis franchement dégoûtée en tant que femme et en tant que femme qui pourrait faire de la politique. C'est au départ, oui. En fait, moi, je regardais ça enfant et adolescente comme quelque chose de prestigieux. On a reçu ici, il y a quelques mois, Mme Catherine Ney, qui disait elle-même aussi qu'elle a suivi des grands présidents, qui est journaliste et une de vos confrères.
Oui, je la connais.
Une amie d'Alain Duhamel.
Voilà, assez bien, même.
Non, mais je la connaissais beaucoup mieux que moi. Que ce métier-là, elle n'aurait pas pu le faire avec les hommes et les femmes politiques d'aujourd'hui. Donc, il y a aussi peut-être une remise en question.
Alors, est-ce que les responsables politiques,
eux, comment se comportent-ils aussi?
Est-ce qu'ils se comportent moins bien qu'avant?
Non. Non, non, sinon qu'ils ont des instruments différents à leur disposition. Évidemment, Michel Debré, on ne l'imagine pas à TikTok.
Oui, hein? Non, ça c'est sûr.
Mais vous voyez,
ça n'existait pas.
Est-ce que ce n'est pas la normalisation, en quelque sorte, de la fonction qui a créé ça? Je veux dire, est-ce que le premier homme politique qui a, en quelque sorte, dégradé la fonction, est-ce que ce n'est pas la position de François Hollande en tant que président normal? Quand on voit des hommes politiques qui vont passer dans des émissions grand public, de divertissement, quand on les voit ensuite, vous l'avez dit, sur les réseaux sociaux, etc., ils se taillent un costume de personnes normales, alors que la fonction politique doit rester une fonction extraordinaire et doit rester une fonction rare. Et on a l'impression que l'abolition de cette rareté, en quelque sorte, crée
Alors, d'abord, des ministres qui se comportent mal, ou d'ailleurs des parlementaires qui se comportent mal, franchement, ça n'est pas une nouveauté, ça a toujours existé. Ça a toujours été une minorité. Et du coup, d'ailleurs, la majorité qui se comportait bien, quand je dis qu'ils se comportaient bien, je veux dire selon les critères moraux et selon les critères juridiques. Je ne vous parle pas selon les critères politiques. Là, chacun défend ce qu'il veut. Il y a toujours eu ça. Toujours. C'était déjà vrai sous l'Ancien Régime. Et je dirais même dans des proportions encore plus grandes avant 1789 qu'aujourd'hui. Bon, mais aujourd'hui, il y a des instruments. Et c'est vrai que un ministre qui a envie, ou une ministre, qui a envie de faire carrière, si on l'invite à une émission grand public où elle pensera qu'elle aura plein d'auditeurs, voire des auditeurs ou des téléspectateurs que normalement elle n'arrive pas à toucher par les moyens d'expression classiques, bon, en soi, ça me choque pas qu'ils essaient. Simplement, à eux, dans ce cas-là, dans ces émissions qui sont pas les émissions naturelles pour eux, de se comporter de façon impeccable, c'est-à-dire de pas être démagogue, pas applaudir des sottises, etc.
Mais sincèrement, est-ce que par exemple Thierry Soler a raison de renoncer à se présenter puisqu'il a 13 chefs d'accusation? Jérôme Perra, lui, avait été condamné. Finalement, il a été débranché. Ça, c'est normal?
Surtout, ce qui serait normal, c'est que ces problèmes-là soient réglés avant de donner les investitures.
Oui.
Bon, alors c'est vrai que quand il y en a 489 à distribuer, évidemment, mais en l'occurrence, comme ce ne sont pas des anonymes, ce sont des problèmes qu'il fallait régler avant.
Et parce qu'on pense que ça va passer. Et puis, malheureusement, les médias...
Parce que ce sont des gens en tout cas, un d'entre eux a été très efficace dans ce qu'il avait à faire... Et qui était difficile et qui a été très efficace. Et il n'a pas été condamné.
Non, c'est ça.
C'est ça le problème.
Et il est prisonnier.
Et il sera peut-être. Peut-être qu'il sera blanchi complètement. Je le souhaite du point de vue de la démocratie, j'aimerais autant que ce soit le cas.
Et avec des procédures qui sont très, très lentes.
Très lentes. Alors, ça aussi, évidemment. Mais ça, c'est un.
Mais pour revenir à la composition du gouvernement, certains journalistes politiques annoncent une surprise au Quai d'Orsay. Ouais. Alors, c'est un poste important, mise à affaires étrangères, il y a la guerre en Ukraine, il y a une crise en ce moment au sein du Quai d'Orsay, parce qu'il y a une réforme et les diplomates sont pas contents, donc il y a une grève, c'est assez rare. C'est intéressant d'annoncer une surprise, de surprendre à ce
moment. Alors, on n'annonce pas une surprise, c'est les journalistes qui arrivent à savoir qu'il est question de. Hein. On n'a pas fait un communiqué pour attention, vous allez avoir une surprise au Quai d'Orsay. Bon, maintenant, je dirais en règle générale, à partir du moment où il y a un changement de mandat présidentiel, donc c'est pas simplement un remaniement présidentiel, c'est un nouveau gouvernement, c'est impératif qu'il y ait une ou deux surprises. Si autrement, s'ils sont les mêmes, ou s'ils sont des gens de troisième ordre, eh ben, on s'en apercevra tout de suite. Donc l'idée d'une surprise, ça me paraît nécessaire. D'ailleurs, je crois que c'est ce que je vous disais hier. Maintenant, encore faut-il que ça soit une bonne surprise. Et ça, je vous le dirai. Justifié. Je vous le dirai dès que je saurai de qui il s'agit.
Parce que pour l'instant, sincèrement, on a attendu 3 semaines pour avoir une première ministre. Certes, c'est une femme et c'est un événement en France parce que malheureusement, ce n'est que la deuxième sous la Ve République. Mais le nom de Madame Borne n'est pas une surprise en soi. Elle était mise depuis 5 ans. Son nom avait été cité. Donc on est dans la continuité. Et pourtant, Emmanuel Macron annonce un changement. Alors, est-ce que ce sera un changement la méthode ou un changement dans
les... Alors, c'est bien pour ça, déjà, que je vous dis que puisqu'il y a annonce d'un changement, il faut qu'il y ait des noms qui soient un peu des surprises. Autrement, il n'y aura pas de changement.
Les noms qui circulent ne sont pas surprenants.
Ben, on verra lesquels. Parce qu'il y a des politiques qui se sont ralliés pour élargir la majorité, qui viennent de la gauche ou qui viennent de la droite. Il y a des deux. Bon, ça, ce ne sont pas des surprises. Ce sont des tactiques, ce sont des ambitions. Bon, mais... il y a aussi des surprises qui viennent d'ailleurs. Quelquefois, c'est, comme c'est arrivé, un très grand scientifique qu'on nomme à la recherche scientifique. C'est déjà arrivé dans l'histoire, l'histoire de la Ve République. Ou bien quelqu'un qui a fait quelque chose d'extraordinaire dans un domaine et à qui on confie ce domaine. Bon, c'était et à ce moment-là, ça peut être intéressant quand même.
Quand c'était Charpak. C'était,
oui, il y a ça, mais il y en a eu plusieurs, des très grands scientifiques.
Mais quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui d'un ministre sous le gouvernement Emmanuel Macron? Parce qu'il est là pour essayer de porter des réformes, pour son administration, pour essayer de faire passer ses propres idées aujourd'hui.
Je suivais déjà ça, et en plus je le connaissais assez bien. Quand Michel Debré, premier ministre de la Ve République, était à l'hôtel de Matignon, je peux vous dire que la marge des ministres, c'était à la baguette, hein. Donc c'est pas nouveau. D'accord. Contrairement à ce qu'on dit beaucoup, ça n'est pas nouveau. Mais les ministres qui sont à la fois compétents et qui ont du caractère peuvent arriver à arracher des décisions qui au départ sont pas celles du président. Mais il faut être compétent, faut pas se faire prendre, surtout que Macron connaît par cœur les dossiers, donc il faut pas y aller avec de mauvais arguments et il faut vraiment avoir du caractère. En général, il y en a bien 2 ou 3 par gouvernement. Le tout est qu'ils soient à des postes intéressants.
Aujourd'hui, là, on parlait de problèmes de compétences et de classe politique. Quel est le premier ministre, enfin, quel est le premier ministre qui vous a vraiment impressionné et parmi les grands ministres sous la Ve, qui ont vraiment laissé leur trace, leur empreinte, Alain Duhamel?
Il y a Debré, parce que Debré a fait en 4 ans plus de réformes qu'on en a fait depuis. Hein, de 58 à 62. Vraiment. Ah, mais oui, vraiment. Il a, depuis Bonaparte, premier consul, on n'avait jamais vu délibérément, réfléchi à l'avance, autant de réformes en un temps de ce genre. Jamais, jamais, jamais. Et ça ne s'est pas du tout reproduit. Bon, ensuite, il y en a qui ont été des bons premiers ministres. Je veux dire, Jospin, quand il était premier ministre, c'était pourtant déjà la gauche plurielle, ça allait des communistes aux écologistes, etc. Eh ben le gouvernement, ça marchait. Hein. D'abord, il y avait eu un bon niveau, vous vous rappelez, on parlait du Dream Team. Ouais. Il y a eu des réformes qu'on approuve ou pas. Moi, il y en a qui me plaisaient. Par exemple, les emplois jeunes, je trouvais ça très bien. Il y en a qui me plaisaient beaucoup moins. Par exemple, les 35 heures. Je suis pas du tout un homme des 35 heures. Bon, mais il gouvernait, il était le patron, et la mécanique marchait. Et les résultats ont été globalement, pas dans tous les domaines, mais globalement plutôt bons.
Georges Pompidou, il a été un premier ministre.
Georges Pompidou a été un très bon premier ministre parce qu'il était très expérimenté puis qu'il avait une grande envergure personnelle, mais il n'a pas laissé une trace comparable à celle de Michel Debré. Édouard Balladur, quand il a été ministre des Finances, ministre d'État, ministre des Finances, ministre de l'Économie, ministre du Commerce extérieur, ministre des Privatisations, tout ça ensemble. Pendant la première cohabitation, de 86 à 88, il est arrivé avec un plan en tête, il l'a appliqué, alors on était d'accord ou pas d'accord, mais son plan, il a fonctionné. Et l'idée de faire des groupes français à partir des dénationalisations, je dis bien dénationalisations, qui tiennent le coup vis-à-vis des groupes étrangers comparables, c'est intéressant. Mmh. Et il l'a fait. Donc, il y a des premiers ministres, lui, il était le numéro 2 du gouvernement, qui arrivent à vraiment laisser une trace. Je veux pas dire les 10 dernières années, parce qu'à ce moment-là, il faudrait être honnête et dire les 20 dernières années, pour que ça soit de gauche, de droite, à l'ancienne ou nouvelle. Hein. Mmh.
Alors, les 15, Sarkozy, Hollande, Macron. Là, on a vraiment tout. Vous deviez faire un podium.
Sarkozy, ça a été le plus actif des présidents de la République.
Dans les premiers ministres.
C'est ça. Alors, dans les premiers ministres de Sarkozy, tout le monde sait très bien que ça n'a pas été le cas. Il y en a eu un seul.
Voyons.
Et Fillon, et Sarkozy lui-même a dit c'est un collaborateur. Donc, on peut pas dire que ce soit lui. Bon. Mmh. Ensuite, Valls a fait des choses quand il était Premier ministre, en particulier dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. C'était une phase qui était tellement mauvaise pour la gauche qu'on peut pas dire que ça ait marqué profondément. Hein, aucun des trois premiers ministres de François Hollande n'a pu marquer.
Est-ce que la fonction n'a pas été dégradée, à chaque fois,
les cas sont différents.
Mais est-ce que la fonction n'a pas été dégradée quand même au fil des ans?
Non, elle a été modifiée. Elle a été modifiée parce que on a bien vu au fil des années que c'était le président qui prenait les décisions. Alors ça a été vrai de tous les présidents, bonne ou mauvaise. C'était le président qui prenait les décisions. Et on a vu que le rôle du Premier ministre ressemblait de plus en plus au rôle du secrétaire général de la Maison-Blanche dans le régime présidentiel américain. Mmh. Bon, qui est un rôle considérable néanmoins, qui est vraiment un rôle très très important. Bon, on va quand même dans cette direction-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au début, la Ve République faisait semblant d'être parlementaire. Je dis bien faisait semblant parce que c'était pas la réalité. Et aujourd'hui, elle fait semblant de ne pas être présidentielle.
Merci Alain Duhamel. Rendez-vous cet après-midi sur BFM TV pour.
Probablement.
La journée va être longue.
Vous êtes, monsieur Duhamel, passionnant. C'est un plaisir de vous écouter.
C'est gentil.
Voilà. Merci.